Voilà, donc on va avoir une dernière intervention autour de la première internationale qu'on a un tout petit peu évoquée durant l'ensemble de ce colloque. Et bien sûr, le rôle de la première internationale et de ses liens avec la commune. Alors on va changer un petit peu de modèle parce que le modèle expositif a ses intérêts et ses limites. Et on va procéder entre Raphaël et moi, éventuellement vous, à un jeu de questions et de réponses. Et donc Raphaël répondra à ces questions-là. Donc la première question que nous avons préparée, évidemment, Raphaël et moi, est la suivante. Pourquoi une approche du rôle de l'AIT, donc Association internationale des travailleurs, lors de l'insurrection communarde, sachant que le combat était sur le territoire français et particulièrement à Paris? Donc, paradoxe, l'international d'un côté, le territoire français et Paris qui est encore plus petit dans ce cadre-là. Raphaël ?
La première chose, c'est que au sein de l'Union locale CNT d'Argenteuil, on est trois camarades à travailler depuis quelques années la question de l'internationalisme. On a sorti de l'internationalisme révolutionnaire de 1864 à 1914, donc on avait déjà eu un intérêt pour cette question. Et le fond, c'est que l'internationale, elle est relativement jeune, elle est née en 1864, et pour la première fois, elle est confrontée à une insurrection ouvrière, populaire, alors que jusque-là, son action, qui commençait à faire peur d'ailleurs aux différents pouvoirs de la bourgeoisie étatique, se concentrait surtout sur une solidarité financière avec des luttes ouvrières. D'ailleurs, il y avait des adhésions massives, parce que souvent on dit, tiens, pourquoi il y a 1000 personnes qui, à tel endroit, ont adhéré du côté de l'Isère, par exemple, à l'international. C'est parce qu'il y avait quand il y avait des grèves dures, il y avait vraiment une solidarité financière importante, ce qui fait que ça étoffait, ça soutenait les grévistes et ça a créé des sections relativement importantes. Ce qui montre d'ailleurs qu'une organisation est attractive quand elle est utile. On ne vient pas simplement dans une organisation parce qu'on a vu de la lumière, mais parce que l'organisation s'avère utile dans un combat qu'on mène au jour le jour. Et jusque 71, c'était ce type d'action qu'avait, en dehors des réseaux, des échanges, des congrès, pour définir les programmes à venir, c'est une organisation qui, pour la première fois, une jeune organisation confrontée et encore unifiée, entre les tendances Marx et Bakounine, encore unifiée et confrontée à une insurrection qui se produit dans un contexte un peu particulier, parce que souvent, on l'oublie un petit peu, et pourtant, c'est essentiel quand même, pour notamment pour comprendre beaucoup de choses qui sont passées après et qui se produisent encore aujourd'hui. C'est le contexte de guerre contre la Prusse. C'est-à-dire, c'est une insurrection dans un cadre où il y a le siège de Paris, il y a une défaite militaire. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça va imprégner certaines attitudes de résistance. Il y a à la fois une guerre sociale et une guerre nationale, et puis en même temps une guerre pour la défense de la République qui a été programmée contre un éventuel retour de la monarchie. Donc c'est une situation très complexe. Et c'est pour ça qu'il y a des références avec la Révolution française, l'ennemi extérieur qui était présent aussi, et il y aura la même physionomie en 17 en Russie, avec toujours et en Espagne, avec des luttes à mener sur différents fronts en même temps. Le front, prolétarien, de quel objectif égalitaire de société pour demain, et imbriqué là-dedans la question de la guerre, la défense nationale, etc., etc. Et ça aura des implications concrètes, parce que, y compris les communards qui ont baigné, ça a été un peu évoqué rapidement ce matin, on a travaillé, nous, sur la Kanaky aussi, en 1878, quand il y a la révolte du peuple kanak, il y a des communards à l'écrasante majorité, à l'exception de Louise Michel, qui a une attitude, moi je trouve exemplaire, pionnière, et entouré de quelques personnes, je crois qu'il y a Malato, mais je dis peut-être une connerie, je n'en suis pas certain, mais qui elle a vraiment une attitude, mais c'est elle aussi qui va vouloir je reviendrai dessus après, mais c'est une des rares qui va lever le drapeau de l'internationalisme en Kanaky, alors que des gens comme Jean Hagemann qui se trouve là-bas, sera du côté de l'État français et des droits communs qui vont faire la chasse aux Kanaks pour obtenir une réduction de peine. Donc et l'origine de tout ça, il vient aussi de cette réalité à l'époque, de ce mélange de guerre sociale. Comment, dans un contexte où il y a une guerre sociale qui se mène et en même temps des questions de territoire, comment maintenir une indépendance de classe? C'est un sacré problème. Ça n'a pas tout été résolu, d'après moi, en Espagne. En Russie, c'est un peu différent. Mais en Espagne, en tout cas, il y avait... Voilà. Donc c'est un peu la première internationale face à de nombreuses difficultés, mais à une vraie insurrection ouvrière, en tout cas la première.
Oui, sachant qu'on a évoqué hier que cette internationale n'était pas que parisienne, loin s'en faut, puisque des camarades étaient organisés à Grenoble, à Lyon, ou au Creusot, à Périgueux ou ailleurs. Certes, ça se concentre sur Paris et la région parisienne, mais c'est du fait de cette insurrection qui va durer non pas 72 jours, comme on vous l'a dit depuis le début du colloque, mais 73, puisque les derniers fusillés seront fusillés à Versailles le lendemain du 72e jour. Voilà pour la mémoire. Donc, elle est très présente, elle débat d'un certain nombre de choses, elle a été solidaire avec un certain nombre de grèves antérieurement, et elle a reçu d'ailleurs la solidarité, en particulier des Britanniques, dans cette affaire-là. Mais qu'est-ce qu'elle représente au moment de l'éclatement de la Commune, particulièrement à Paris? Est-ce que c'est une organisation de masse avec 300 000 camarades organisés, ou est-ce que c'est encore une organisation en plein développement?
Enfin, ce qu'il y a d'abord, c'est l'état de... C'est une organisation qui est en train de se construire. Donc on peut dire qu'il y a quatre sections en France. Hein. C'est pas une approche parisienne simplement. Il y a Paris, Rouen, Marseille et Lyon. D'ailleurs, les deux dernières étant assez proches des positions de Bakounine. Et il y a eu, avant l'insurrection, une tournée en France de Varlin et de Benoît Malon pour essaimer et construire des noyaux internationalistes sur tout le territoire. Donc il y a déjà des embryons d'organisation, hein, plus ou moins importants, hein, parfois limités, quelques individus. Je vais énumérer quand même, hein, Lille, Roubaix, Tourcoing, parce que c'est des régions quand même importantes, Toulouse, Bordeaux, Limoges, Besançon, Le Mans, Saint-Étienne, Dijon, Reims, Rethel, pour ceux qui connaissent, c'est un petit village, une petite ville des Ardennes, que je connais bien, Saint-Quentin, Brest. Voilà, et Brest, c'est assez faible, je reviendrai tout à l'heure. Voilà, c'est un peu ça la réalité de l'organisation qui est en train de se construire, avec une volonté des gens qui font le Tour de France. Ça, c'est l'état des forces. Hein. Et après, il y a la question que tu posais, où on en est après une période de guerre. Parce que et là, les réponses sont assez claires. Hein. C'est une organisation qui est... Même les sections qui existent sont affaiblies. Hein. Quelques militants, Varlin, Thèse, Frankel, Avrian, Kubo, qui s'efforcent de reconstituer les sections désorganisées. C'est ça la réalité, se reconstituer après la période de guerre contre la Prusse et l'état de siège. Hein. Donc Varlin, ce qui dit, les cotisations de sections ne se recouvrent plus. Il n'y a plus de fric. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas au niveau parisien, il n'y a pas de capacité à créer. Leur problème, c'est d'avoir un journal. Donc il n'y a pas les moyens financiers de se faire entendre. Donc c'est pas la situation la meilleure. Pas de possibilité donc d'une expression autonome. Et c'est la conséquence de la guerre, des mois de siège, de la misère et du chômage. Je fais juste une parenthèse, qui n'a rien à voir, mais que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps un document il y a une semaine, d'un menuisier à l'époque, qui raconte, c'est écrit à la plume, les conditions de vie pendant le siège de Paris, où on vend une patte de cheval, 2 francs. Vraiment les conditions terribles qu'il y a. Donc dans ces conditions, on ne peut pas comprendre la force, enfin, disons, la désorganisation de l'international si on ne se remet pas toutes ces conditions, y compris physiquement de bouffer. Quoi. Il n'y a pas que des moyens financiers qui manquent, mais il y a des moyens physiques aussi. Voilà. Cependant, c'est dans les locaux de la Fédération, hein, donc place de la Corderie du Temple, que le comité central de la garde nationale se réunit, émanation d'opposition à tiers, et qui est composé à l'origine de personnes souvent inconnues et issues du peuple. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose de frappant que Yves a abordé tout à l'heure, hein, c'est qu'au début de l'insurrection, c'est des gens du peuple, hein, des premiers révoltés. Ce n'est pas nécessairement des figures qui vont occuper l'histoire, mais c'est peut-être quelque chose à retenir, c'est que pour distinguer des pseudo mouvements sociaux marginaux ou très limités finalement, c'est de voir qui anime ces mouvements pour voir si... Et là, il y a vraiment des gens du peuple. C'est pas quelque chose qui vient d'un quartier général ou qui est autoproclamé mouvement. Donc c'est assez intéressant pour voir qu'il y a vraiment une insurrection qui est enracinée dans la population. Et par rapport à l'international, ben le seul pratiquement qui au départ comprend ce qui se passe, c'est Eugène Varlin, hein, qui comprend la dynamique du mouvement en cours. Et il y a une certaine réticence au départ de l'AIT à intégrer les compagnies de la garde nationale, à y aller, c'est ce que dit Varlin, non pas comme internationaux, mais comme gardes nationaux, et travailler à nous emparer de l'esprit de cette assemblée. Ça, c'est quand même une vision qu'il a, je veux dire, parce que... Et ça, c'est des questions... Dans notre pratique militante aujourd'hui, même si la situation est loin d'être la même, on a toujours... est-ce qu'une grève, il va falloir y aller? Est-ce que c'est un truc qui va... Lui, il a senti qu'il y avait quelque chose. Même s'il n'y avait pas, c'était pas ses positions à lui, il fallait nous emparer de l'esprit de cette assemblée. Donc, il a la perception que c'est quelque chose qui va être fondamental. Donc, il s'agit pour lui de convaincre Frankel et Pindy, réticents, eux, qui voient là un risque de compromettre l'international. Donc, ce n'est pas simplement une internationale affaiblie, c'est une internationale qui se pose des questions. Et on pourra parler tout à l'heure du Conseil général, hein, qui... On peut faire.
Peut-être ultérieurement, je pense qu'il faut, aussi, faut aussi rappeler que l'international a connu deux procès en 67-68 qui avaient tenté de l'étêter, même si elle se reconstitue, et qu'elle est créée en 1864 à Londres. Donc c'est une organisation qui a 7 ans. Vous savez aussi bien, la Fédération anarchiste qu'à la CNT, qu'en 7 ans, on ne construit pas une organisation ou une organisation qui peut peser dans le mouvement social. Donc là encore, il faut relativiser l'importance de la dite internationale, même si au moment où elle se construit en France, elle se construit aussi en Italie, elle se construit en Espagne, elle est construite un petit peu en Grande-Bretagne sur des bases un peu plus réformistes, avec un pied aux États-Unis et dans quelques autres lieux. Donc là encore, regardons les choses avec les loupes de l'historien, ou du militant, ou les deux, puisque les militants peuvent être aussi des historiens. Au-delà de ça, est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que tu disais Pindy d'un côté, Frankel de l'autre. Frankel est internationaliste, certes, mais blanquiste. Varlin est internationaliste, mais plutôt anti-autoritaire, pour ne pas dire libertaire. Ça représente quoi dans les sections parisiennes de l'AIT? C'est tendance, mais c'est sensibilité.
Enfin, moi, de ce que j'ai sur cette période, hein, c'est... une position globale attentiste pendant les trois premiers mois de 1871, c'est-à-dire est-ce qu'il faut y aller ou pas. Et c'est seulement à partir aux élections du 8 février que la décision est prise, hein, associée avec la Chambre fédérale des sociétés ouvrières et le comité des 20 arrondissements, de présenter une liste. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que l'international commence à se positionner. Et je cite, hein, « pour affirmer vigoureusement ses vues sociales, annoncer l'avènement politique des travailleurs et la chute de la féodalité industrielle ». C'est la première problématique. Hein. Les comités de 20 arrondissements, comités de vigilance ont été construits dans les 20 arrondissements. Je pense que vous l'avez abordé hier, ça a dû être discuté. Formé d'hommes... Je lis... Non, oui, bon. Formés d'hommes d'action appartenant aux différentes fractions du parti le plus avancé, ces 20 comités devaient former des espèces de municipalités révolutionnaires. Ils furent reliés entre eux par un comité central républicain des 20 arrondissements. Voilà, c'est ce que James Guillaume explique dans ses souvenirs. Et c'est la première apparition à cette élection du 8 février. Et sur les 6 élus, il n'y a que 2 internationalistes, Malon et Tolin.
Sachant qu'on va quand même voir, et Yves le disait tout à l'heure.
Pardon, ce que j'ai oublié de dire, par contre, c'est que, indépendamment de cet attentisme et de cette prudence, on va dire, au départ, l'insurrection est ressentie en province comme une action de laïté. Ça, c'est aussi un paradoxe. Entre on y va doucement, prudemment, etc., et la perception qu'en ont les travailleurs sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. C'est parce qu'elle était quand même sur une phase ascendante, l'AIT, il y avait, suite à ce que j'ai dit sur les grèves, etc. Donc, c'est un peu... alors après, ça va être aussi utilisé par tiers pour isoler Paris de la province, à cet aspect-là.
Oui. Qu'est-ce qu'il en est donc ? On voit quelqu'un comme Frankel, qui à la fois est blanquiste et internationaliste, va prendre fait et cause pour la minorité. C'est un peu étonnant. Et d'autres internationalistes, eux, prendront plutôt fait et cause pour le comité de salut public. Donc il y a quand même des vraies tensions et des vraies conceptions différentes du socialisme parmi les internationaux parisiens.
Ah oui, mais moi, je pense pas que... même du côté blanquiste, il y a aussi des blanquistes qui vont se rallier à des positions internationalistes. C'est pas des enfin, d'ailleurs, on a dit trois tendances globalement avec le Jacobin, mais je pense que si demain matin on était confronté l'Assemblée ici à une lutte, on est peut-être unifié sur plein de choses, mais on peut avoir des approches. C'était pas clivant, c'était pas des il y avait des réactions individuelles aussi, c'était pas des corps constitués, la perception que j'en ai en tout cas, il y a peut-être des historiens qui me diraient si, c'était vachement non, je crois pas que c'était structuré, donc il y a des gens qui se positionnaient au fil des débats, je crois qu'il y a, d'ailleurs, c'est Millot, qui est un internationaliste, qui met à l'ordre du jour la question du comité de salut public, le pharmacien Millot. C'est un internationaliste, c'est lui qui met cette question. Bon, les blanquistes, je ne sais pas si c'est satisfaisant ce que je réponds.
Si, tout à fait, on ne va pas mettre des notes. Mais, moi, je pense aussi qu'il faut voir les choses là encore avec un petit peu de recul. Nous sommes en 1871, l'international est toute récente. Le clivage Marx-Bakounine n'a pas encore complètement éclaté puisque l'international n'éclatera que quelques temps après la Commune de Paris et que le marxisme est quasiment inexistant en France, sauf quelques-uns qui commencent à s'y intéresser. Le proudhonisme est déclinant, le bakouninisme est en pleine ascension. C'est-à-dire que les clivages que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas encore complètement organisés. Nous sommes héritiers de tout cela et peut-être qu'on peut y réfléchir aussi, savoir que quelquefois on peut militer avec des gens qui ne pensent pas exactement comme nous.
Et je veux dire, à la décharge, entre guillemets, de cette prudence qu'on peut trouver, peut-être, moi, je la trouve tout à fait cohérente, mais ça résulte aussi d'une réflexion collective. C'est-à-dire, il y a la volonté de la section parisienne de dire... on va essayer d'avoir un positionnement cohérent et homogène en cohérence avec nos objectifs. Éric, ce matin du Sud, a montré qu'il y avait parfois des distorsions entre ce que faisaient les uns et les autres. Mais au départ, c'est une réflexion. C'est-à-dire, mais ça, c'est des questions qui se posent à comment on va dans une grève, comment on va dans une manif aujourd'hui. C'est des questions qu'on... il y en a qui disent, dès que ça bouge, j'y vais. Bah, des fois, il faut mieux rester couché. Donc, c'est des questions... vraiment intéressante. Je pense que ça a révélé une certaine maturité politique des gens qui composent la section parisienne. Et voilà. Mais après, ils ont été cohérents. Ils ont développé leur programme de manière concrète, pratique. Peut-être pas tout, mais en tout cas, il y avait cette idée de allons-y, mais discutons, voyons ce qu'on va apporter et ce qu'on veut. Ou est-ce qu'on, comme dans tout mouvement, quoi. Des fois, on peut se diluer dans un mouvement. Puis à la fin, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on a foutu là ? On n'a pas avancé, on n'a rien gagné. Et puis même nos idéaux, nos revendications, même elles sont passées à la trappe. Il faut mieux réfléchir. Il y avait ça aussi. Hein. Vraiment, ça ressort en tout cas de leur interrogation. Et c'est le 23 mars qu'il y a une réunion de l'Internationale parisienne et de la Chambre fédérale des sociétés ouvrières qui, à ce moment-là, décide de... Bon, le temps des réserves est terminé, et ils vont s'investir, s'impliquer totalement dans le soulèvement révolutionnaire.
Oui.
Un manifeste qui est publié, pardon. Vas-y.
Sachant qu'ils sont impliqués dans le mouvement révolutionnaire, là on évoque plutôt ceux qui vont participer au niveau des instances que l'on connaît de la commune, mais aussi tous ceux et toutes celles qui sont des militants de l'AIT et qui sont impliqués dans les quartiers sur la question de la subsistance, de l'éducation, de la lutte des femmes, j'en passe, c'est des meilleurs. Quoi. Non, donc les internationalistes, ils ne sont pas que dans des décisions un petit peu entre guillemets, centrale.
Non, c'est pas simplement que sur des individualités. Hein. Ça se traduit par un manifeste hein, des sections et des délégués de la Chambre fédérale des sociétés ouvrières qui est adopté. C'est-à-dire il y a une orientation qui est fixée. Hein, il encourage les sections à participer aux instances de la Commune, aux élections du 26 mars. Les internationaux cherchent à donner au mouvement communiste un programme et des lignes directrices. C'est un peu... C'est-à-dire, bon, on a réfléchi, l'action, on y va, mais sur des bases... relativement clair. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord sur tout. Mais c'est des... Enfin, moi, ça me semble, en dehors du fait que c'est section parisienne, ça pourrait être... Enfin, pas de l'international. Mais c'est des questions fondamentales pour les luttes d'aujourd'hui, ça. C'est comment on va construire une grève, comment on va construire une action de solidarité, avec qui ? Est-ce qu'il faut être avec n'importe qui pour combattre les fascistes aujourd'hui, par exemple ? Dans un collectif antifasciste, c'est bien d'être avec Mélenchon. Ouais. C'est des questions.
On peut poser la question.
C'est pour ça, on peut poser la question. Pour qui on roule ? Surtout six mois avant des élections. C'est-à-dire, des fois, il faut se poser des questions. Tout ce qui se réunit n'est pas nécessairement cohérent avec les objectifs révolutionnaires qu'on se donne. Et tous les gens qu'on fréquente ont peut-être des autres objectifs que les nôtres. Hein. Et l'histoire, il y a plein de... d'expérience où, en 1945, il y en a qui attendaient autre chose de la lutte contre l'occupant allemand. Comment ils ont été, en s'associant avec certains, désarmés et liquidés, enfin toute perspective de révolution, de transformation sociale, disons, étant liquidée, parce qu'on s'allie avec des gens. Et là, il y avait cette volonté de clarification et au moins d'avoir une orientation, un cap. Hein, voilà. Et bon, ce sur quoi ils assistent aussi, hein, c'est le principe fédératif reposant sur l'auto-administration des communes en tant que groupement des producteurs. Et ils font référence aux actes du congrès de Bâle, hein, congrès de l'international, qui s'est tenu en 1869, qui avait vu la victoire des collectivistes anti-autoritaires.
Alors, puisqu'on parle de l'idée de fédéraliste, on l'a vu hier pour l'éducation, voire pour d'autres choses, dans les mouvements insurrectionnels qui ont lieu ailleurs, à Lyon, à Périgueux, à Limoges, Narbonne, Toulouse, j'en passais des meilleurs. Quel est le rôle de l'international ? Sont-ils aussi présents qu'à Paris, plus présents qu'à Paris ? Ou est-ce que, comme à Paris, ils sont à la fois une minorité active qui a des positions à défendre et qui tente de transformer une insurrection sans orientation vers une orientation socialiste, autogestionnaire, voire anti-autoritaire ?
Le bilan qu'on... Je veux dire, moi, je vais parler un peu de Marseille, de Lyon. Mais je pense que le bilan de ces mouvements, c'est Bakounine qui l'a tiré le mieux, même si ça ne fait pas plaisir des fois. Mais à Marseille, il y a une section de l'AIT hein, qui a été créée en 1867 avec Ange Bateslika. Donc il y a une section qui existe, qui fonctionne. Et il fonctionne pas simplement sur Marseille, sur Aix-en-Provence, La Ciotat, La Seine ou Barcelonnette dans le massif alpin. Donc c'est un peu étendu géographiquement. Et à l'issue de la proclamation de la République en septembre, donc il y a une Ligue du Midi qui a été constituée, qui fédère 14 départements. Donc c'est un peu plus large que l'international, mais il y a une volonté, disons, de se structurer localement, régionalement. Mais qui est mobilisé surtout sur la question de la défense nationale. Toujours pas perdre de vue cet aspect-là, parce que il y a la question sociale et la question de la défense nationale. Et ça met pas nécessairement... Enfin, ça peut mettre beaucoup de gens en mouvement, mais pas pour les mêmes objectifs au final. On verra bien sur ce qui s'est passé à Rouen, d'ailleurs, où là, c'est un peu au summum. Mais ce mouvement est donc hétérogène. Hein, c'est la confusion des gens, mais c'est la situation qui l'impose. Hein. Et ce collectif proclame le 31 octobre, donc après la République, 1870, une commune révolutionnaire qui prendra fin dès le 3 novembre. Donc, courte espérance de vie. La réaction va organiser le siège de la ville à partir d'Aubagne, procédant au bombardement de la cité phocéenne à partir de Notre-Dame-de-la-Garde, hein, pour ceux qui connaissent Marseille, qui sera rebaptisée Notre-Dame-de-la-Bombarde par les assiégés. La répression sera sans concession. Et l'une des figures locales de la révolte, l'avocat Crémieux, qui est un républicain, hein, il sera fusillé, lui, le 30 novembre 71. Cet échec ne saurait surprendre. Une lettre du 17 mars d'Alérini, qui était un membre de la section locale, est adressée à James Guillaume et elle fournissait de précieuses informations sur la réalité marseillaise. Ça, c'est le point de vue de ceux qui... Ce n'est pas un prisme d'analyse après. Et voilà ce qu'il dit. L'international a subi ici comme ailleurs les effets de la guerre. Elle est passablement désorganisée. Les uns sont partis comme francs-tireurs. D'autres furent mis dans la garde nationale, mobilisés. L'état de siège ne finira qu'en 1876, hein, on rappelle. Donc ça, c'est pour Marseille. Donc c'est, je veux dire, la désorganisation était encore plus forte qu'à Paris, mais accentuée par le caractère hétérogène du regroupement, en fait, avec des gens qui se battaient plus contre la Prusse que contre la bourgeoisie. À Lyon, il exerce une fédération de l'AIT. C'est Albert Richard, qui vient du prononisme, qui en est la cheville ouvrière. Des sections sont présentes dans des localités voisines, hein, comme, alors là, ça renvoie à des luttes sur lesquelles on a lu ou on a entendu parler, hein, les filatures de Vienne, Givors, qui étaient variées, Saint-Symphorien, où c'est les ouvrières ovalistes. Hein. Je ne sais pas si Claire Ozias en a parlé hier, elle a écrit un livre sur ce sujet-là, sur cette grève, qui ont mené en 1869 la première grève des femmes ouvrières, donc une implantation. Et voilà, un mouvement communiste. Mais là aussi, on a différentes tendances, avec des radicaux, des républicains radicaux, et différentes tendances du mouvement ouvrier. Et ça, c'est fondamental, parce que si on se base sur une base de lutte de classe, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des alliances avec certains, mais c'est comment on préserve à un moment l'indépendance de classe, hein, les objectifs. Hein. J'ai parlé de la guerre 40 tout à l'heure, c'était le même problème. Est-ce qu'on pouvait résister contre le nazisme en s'auto-organisant sur une base de classe indépendante, hein. C'est une question qui n'a pas été résolue, mais qui est là non plus. Et donc, Lyon, par deux fois, le peuple va se soulever. Hein. Dès le 4 septembre, la population est mobilisée. Michel Bakounine donc rejoint Lyon et participe aux actions militaires. Cependant, sur le terrain, le rapport de force n'est pas en faveur des organisations révolutionnaires, comme en témoigne James Guillaume, qui dit Bakounine, c'est lui qui parle. Hein. Bakounine arrivait donc dans une ville où régnait le gâchis, où les membres de l'international n'avaient aucune notion claire de ce qu'il fallait faire, où les radicaux avaient la haute main et où les intrigants s'agitaient prêts à trahir. Voilà l'image que donne James Guillaume de Lyon. C'est la réalité de l'époque, c'est son ressenti par rapport au témoignage qu'il a. Là aussi, un combat amené et des forces qui ne sont pas prêtes. Hein,
Et puis il y a peut-être aussi la question de l'hétérogénéité des gens qui adhèrent à l'international. On n'adhère pas forcément sur une base complètement de classe. On peut être avocat, on peut être pharmacien ou verrier ou cordonnier et on peut adhérer à l'élite internationale. Il est sûr que les intérêts des uns et des autres ne sont pas toujours totalement et fondamentalement identiques. Donc là aussi, des débats qui sont nécessaires et qui amènent à ces positions un peu différentes. Mais dans cette affaire-là, il y a aussi un personnage ou un lieu qu'il faut évoquer. L'international a un lieu de réflexion, je veux dire ça comme ça, qui s'appelle le Conseil général, qui est très largement phagocyté par Karl Marx. Qu'est-ce que fait Londres et le siège de l'international durant la Commune de Paris, au-delà de demander à Madame Dimitrieff d'informer le camarade Karl?
Je voulais juste, avant, dire un mot sur Rouen.
Eh ben vas-y.
Parce qu'il y a eu Marseille, Lyon, mais Rouen, c'est intéressant aussi parce que c'est vraiment un bastion ouvrier en termes d'entreprise, etc. C'est peut-être un peu long, peut-être, non ? Faut me le dire.
Non, ben vas-y, sur Rouen, c'est intéressant.
C'est depuis 1965 qu'il y a des luttes ouvrières, il y a des sociétés corporatives adhérentes à l'AIT, parce qu'il y a eu des grèves importantes, pareil, même processus qu'ailleurs, des grèves, un soutien, création. Donc, effectivement, quand on se crée simplement parce qu'on a reçu un soutien financier, ça ne veut pas dire qu'on a une conception de classe tout à fait... On pourrait dire qu'on remercie, hein, puis c'est tout. Cette localité est un centre industriel, donc filature, tissage, atelier chemin de fer. Il y a 1000 salariés. En 68, il y a 200 tisseurs de Bertin qui se mettent en grève. contre une baisse des salaires, soutien actif de l'international. C'est intéressant de voir parce que souvent on parle de l'international à partir des congrès, quoi. C'est bien, les échanges, les programmatiques, les engueulades, les scissions et tout. Mais là, c'est une internationale en action, avant, je parle avant 71, par rapport à des mouvements, c'est quelque chose de concret, de vivant. Donc, présence par rapport aux grèves et fileurs de laine d'Aigueboeuf. Il y a pas mal de grèves locales et à chaque fois des soutiens. Et donc, sur le plan organisationnel, il y a eu un centre d'études économiques qui a été constitué par Émile Aubry en 65, un disciple de Proudhon qui est rattaché à la première internationale. Et ils sont 13 corporations en 69, entre 1000 et 3000 membres. À l'issue de la chute de l'Empire, bon, il y a la section rouennaise qui se positionne. Là encore, on retrouve c'est fondamental, cette question de la défense nationale. Ils se positionnent en faveur de la défense nationale. Pourquoi ça me semble, moi j'insiste lourdement, hein. C'est parce que ces questions-là, on va les avoir, on les a déjà devant nous, dans les luttes par rapport au nationalisme, par rapport à ce qui se développe, etc., défendre la production française, tous ces trucs-là, on les a déjà. On a un terreau qui... Et si on ne fait pas gaffe, on aura des gens comme la France insoumise qui viendront passer leur camelote. Donc, défense nationale, action de masse, et ils disent qu'il faut faire une action de masse contre l'occupant. C'est la section de l'AIT, c'est celui qui représente. C'est-à-dire, c'est l'occupant qui est le premier... Le premier visé, et ça, c'est encore un remake de 1793. Et voilà ce qu'il dit. Je veux dire, nous, on a cité dans le premier texte qu'a présenté Yves, on a mis en exergue une citation de Issa Garay, hein, qui dit ce qui est important, aborder la commune, c'est ne pas mythifier. Hein. Mythifier, c'est comme lancer un navire, des navigateurs, sans carte, sans boussole. Nous, c'est un peu pour ça qu'on insiste. On préfère montrer les points qui suscitent des réflexions que de mythifier une légende où tout le monde serait uni, tout le monde serait clair, etc. Et voilà ce que dit Aubry, qui est, dans les circonstances présentes, ce serait manquer du devoir de citoyen qu'agiter les questions de l'affranchissement du prolétariat et de la réforme sociale qui ne peuvent venir utilement à la discussion qu'après la défaite de l'ennemi. Notre devoir à tous est de consacrer uniquement notre temps et notre intelligence à la défense du pays. Faisons abnégation de nos aspirations, oublions toutes nos dissensions et ne pensons qu'au salut de la patrie. Voilà, c'est un exemple.
C'est un exemple qui nous a coûté cher en Espagne. C'était pour certains d'abord la guerre, après la révolution. Et on a perdu la guerre et la révolution.
Voilà, c'est pour ça que c'est voilà. Maintenant, tu peux reprendre tes questions.
Ok, le Conseil général...
Enfin, il n'y aura qu'une personne qui va être claire pour se mobiliser en soutien. C'est un menuisier, l'écureuil, il s'appelle. Et il va être dénoncé comme agent provocateur prussien. Le seul qui est solidaire, je veux dire, toi, tu es à la sangle de la Prusse, quoi.
Voilà, donc le Conseil général, que fait-il ? Marx écrira après la guerre civile en France, où il revient sur un certain nombre de ses conceptions. Et il a un certain nombre d'amis à Paris qui l'informent sur ce qui se passe durant cette Commune de Paris, dont Elisabeth Dmitrieff, que j'évoquais tout à l'heure.
Alors, le Conseil général, c'est Marx, hein, qui est à Londres. Il est clair, au départ, ils ne sont pas favorables à une insurrection. C'est une position qui est exprimée dans une adresse, dans l'adresse du Conseil général du 9 septembre 70, qui déclare « Toute tentative de renverser le nouveau gouvernement, quand l'ennemi frappe presque aux portes de Paris, serait une folie désespérée. Que calmement et résolument, ils, les ouvriers français, profitent de la liberté républicaine pour procéder méthodiquement à leur propre organisation de classe. » Ce qu'ils feront d'ailleurs en Allemagne, tranquillou. Mais ça, c'est la position au départ. Ils disent que c'est prématuré. On peut dire...
Parce qu'il faut construire le parti et préparer les élections.
Ouais. Je trouve que tu simplifies.
C'est un
peu plus complexe. Non, mais après, on peut discuter des heures là-dessus. Mais en tout cas, est-ce que dès que le mouvement va exister, ils vont se rallier et ils vont même en tirer des leçons politiques. Hein. Mais est-ce qu'analyser un rapport de force à un moment donné, son diagnostic, il s'est réalisé. Ça a été une défaite tragique. 30 000 morts. Je veux dire, ça a été... Alors, est-ce que dire ça, c'est dire il fallait faire un parti ? Mais, je veux dire, analyser... Dans une grève, il y a des grèves qu'on mène des fois, ou qu'on menait, en tout cas pour moi, à un moment donné, c'était peut-être pas le bon moment. Ça, analyser un rapport de force et dire que peut-être c'est pas le bon moment, après on peut en déduire, mais c'est tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est vrai que après, ils ont préféré une stratégie de construire le parti, les élections, et tata. Ok. Mais dire que c'est ça dans sa tête complètement...
On l'interrogera.
Je dirais que les faits lui ont donné raison sur le pronostic. C'est triste, mais...
On ne décide pas du moment de l'insurrection, ouais. Sauf quand on s'appelle Karl Marx.
Non, mais après, non, je viens, on tourne la page. Mais moi, la position du Conseil général, c'est celle-là. J'y peux rien. Et que calmement, après, j'ai dit ça. Mais après, il va se mettre. Tout le Conseil général, ils vont essayer d'avoir des agents. Il y en a deux agents de liaison avec l'international qui vont lui faire des rapports, etc. Parce qu'il incarne quand même, on dit le Conseil général, hein, c'est Marx, hein, de fait. Mais c'est déjà une tendance autoritaire qui va éclater en 72, hein, dans la scission de l'international. Mais. Après, il anticipe d'un point de vue un peu enfin, politique, hein, où il dit, dans une lettre à Kugelmann, hein, du 17 avril, il dit « Grâce au combat livré par Paris, la lutte de classe ouvrière contre la classe capitaliste est entrée dans une phase nouvelle. Mais de quelque façon que les choses tournent dans l'immédiat, le résultat sera un nouveau point de départ d'une importance historique mondiale. » 150 ans après, on en parle. Hein. Donc, à partir du moment, ils vont essayer de soutenir à la mesure de ce qu'ils sont, hein, pas grand-chose. Mais ils vont donc, et leur correspondance, ces deux ouvriers français, c'est Dupont et Serralier. Serralier dit Jackson, hein, qui va être son agent de liaison. Voilà. Il y a eu des échanges épistolaires entre Marx, enfin, entre le Conseil général, Varlin, Vermorel, Vaillant, Longuet, Lafargue ou Frankel. Donc c'est à partir de ça qu'ils essayent de se positionner. Et l'activité de soutien au mouvement sera organisée sur le plan financier par la collecte de dons militaires ou politiques. Voilà. Et après, il va saluer l'insurrection pour laquelle il n'est pour rien. L'insurrection parisienne, même si elle vient à être réduite par les loups, les cochons et les chiens, est le plus glorieux exploit de notre parti depuis l'insurrection de juin. C'est-à-dire que là, c'est là où là, on a le Marx autoritaire, récupérateur et, oui. De notre parti.
Oui, il faut peut-être aussi signaler dans la correspondance de Marx, je crois, Engels, qui dit que l'insurrection parisienne a été écrasée et que ça fera le plus de bien possible au prolétariat français.
Vraiment, tout à fait.
Qui a été très largement éduqué par Proudhon et qu'après avoir pris cette branlée militaire, allait peut-être commencer à raisonner et à s'intéresser aux thèses que Marx et ses épigones pouvaient développer. Quoi. Ouais, donc, une position très, très ambiguë de Marx sur cette question-là. Opportuniste au moment de la guerre civile en classe, la guerre civile en France, et dans sa correspondance privée, pensant que, effectivement, l'insurrection était sans doute trop rapide et trop spontanée, et que si le prolétariat français avait subi une telle défaite, c'est qu'il ne s'était pas rangé aux orientations que Karl Marx et ses amis auraient pu donner au mouvement.
Ce que dit Engels dans une lettre, il dit « La Commune intellectuellement était sans contredit fille de l'international, même si l'international n'a pas remué le petit doigt pour elle. Hein. » C'est d'un cynisme à toute épreuve. Hein. Ça, c'est évident. Mais au nom de la lutte contre le marxisme autoritaire, on ne doit pas gommer d'un trait ce qui a pu être dit à un moment qui peut être... entendable, je veux dire, voilà. Sinon, on tombe dans moi, ce que j'appelle le dogmatisme et sectarisme. Donc voilà, et la solidarité, elle va surtout se poser concrètement face à la répression et après la défaite.
Commençons
politiquement, par contre, Marx tire aussi des leçons, puisqu'il écrit une leçon de la guerre civile en France, où il dit, et là aussi, c'est un débat qui nous mènerait, où il dit que, par rapport à... C'est Engels qui dit quelque temps après, je ne m'en souviens plus. C'est quoi la dictature du prolétariat? C'est la Commune de Paris.
C'est Engels qui dira ça.
C'est Engels, plus tard, ouais. Il me semblait bien. Mmh. Que c'est... Et ouais. Comme quoi, c'est une récupération aussi d'un mouvement qui est tellement puissant et tellement fort dans ce qu'il a réalisé concrètement qu'ils sont obligés de s'y référer, même si leur projet n'a rien à voir avec l'auto-organisation et fédéralisme qui a eu lieu pendant la Commune. Hein. Mais ils vont s'en servir pour justifier... Et alors, je ne parle pas après des marxistes, c'est une autre histoire.
Alors, comment sont accueillis les communards à Londres et ailleurs, en Suisse par exemple, ou en Belgique, par les internationaux locaux?
Alors, déjà, il y a la Fédération jurassienne, donc en Suisse, qui publie, déjà dès la défaite de Napoléon III, la proclamation de la République, un manifeste aux sections internationales, qui est publié dans leur un supplément au journal La Solidarité. C'est un appel à l'action immédiate, la cause de la République. La cause de la République française, c'est celle de la Révolution européenne. Et le moment est venu de donner notre sang pour l'affranchissement des travailleurs et de l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'on voit que, pour la section jurassienne, la question qui est posée, ce n'est pas une question française. C'est une question, déjà au minimum, qui concerne plusieurs pays, européens en tout cas. Donc là, on voit quand même, c'est pas simplement la solidarité. On peut peut-être déclencher une insurrection pour notre cause à nous, qui est la même. Donc ça, moi je trouve que c'est assez intéressant comme déplacement des visions nationalistes. Donc une adresse aux différentes sections étrangères pour créer partout c'est pas simplement un soutien à la France, hein, c'est créer des assemblées populaires à demander des armes pour les volontaires, etc., etc. Bon, et ils vont être attaqués et ça n'ira pas très loin en Suisse. Le problème qu'ont les sections étrangères, c'est les liaisons internes avec l'insurrection parisienne. C'est-à-dire, déjà, la guerre avait supprimé les échanges, et donc il y a des tentatives de jonction avec des émissaires suisses ou belges, par exemple, qui n'arriveront pas à se coordonner avec les Lyonnais ou les Parisiens. Donc là, il y a des gros problèmes de coordination, et ils vont se replier, la Fédération jurassienne, sur les comités de secours fraternels. Pour ça va être pour les réfugiés de la commune, c'est après la défaite, où il va y avoir vraiment toute une activité pour lutter contre la terreur étatique. Parce que, je veux dire, on en parle 150 ans après, la terreur de la bourgeoisie à l'époque européenne, en tout cas, elle est devant ce qui s'est passé à Paris. C'est une violence répressive. Il faut casser à tout prix l'international, les militants, les militantes. Il faut détruire tout ça. Donc face à ça, il va falloir, et l'international va au moins servir à ça, des sections étrangères, à accueillir les gens qui peuvent s'échapper, à organiser des secours, à trouver du travail, parce qu'il y a tous ces aspects-là. Et ça, on va le vivre en Suisse, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, où il y aura une section de l'AIT qui va se créer avec des communards. Il y a une très bonne bande dessinée sur les communards aux États-Unis, il y a quelques années, je ne me rappelle plus du titre, de Didier Denynx, qui raconte un peu cette période.
Il y a aussi le texte de Cordillo sur la sociale en Amérique, où on retrouve un certain nombre d'internationaux qui s'y sont réfugiés.
Ouais, ça, je ne connais pas. Voilà.
Voilà, c'est sachant qu'on a vu dans le film de ce matin que même si on est accueilli à Londres, à Bruxelles ou à Genève, il y a quand même une très grande misère et de grandes difficultés des communards et des internationalistes qui se réfugient, quoi. Comme quoi la vie des réfugiés aujourd'hui est aussi difficile que la vie des réfugiés hier.
Enfin là, il y a vraiment un travail concret qui est fait pour extrader les communards qui fuient, c'est-à-dire organiser le passage des frontières, hein, c'est très concret. Les internationalistes suisses réalisent de faux passeports qui acheminent clandestinement à Paris. Il y a une filière qui permettra à Benoît Malon, Frankel, le Français, les frères Reclus, Jacques Bellé, Pindy, André Léo aussi, d'atteindre la Suisse. Il y a tout un travail concret. Idem pour la Belgique, l'Angleterre. Et ça accueille aussi des proscrits marseillais et lyonnais, bien sûr. En Belgique, il y a la plaidoirie de Hugo, hein, qui est Hugo, voilà, c'est la même réflexion qu'avec Marx. Hugo, comme tous les trois quarts des écrivains qui vont cracher sur la commune, je ne sais pas si vous l'avez abordé hier, mais tous, Georges Sand, que personnellement moi j'aime bien, tous, Gautier, Dumas, Maxime Ducamp, enfin tous, et Victor Hugo, il va y aller, bon, ils ont mis le feu c'est sur la question de la violence, hein. C'est ces questions-là qui sont en jeu. Mais Victor Hugo, il va être tout à fait correct. D'ailleurs, il est lui-même réfugié en Belgique, où il demande à la Belgique d'accueillir les communards, et sa maison est attaquée. Il menace de rentrer dedans, quoi. Et donc il est obligé de partir à Jersey, en Angleterre, à Jersey, après, je crois. Et voilà.
Sachant que ce sera un des grands militants de l'amnistie, quand même, Victor Hugo, avec toutes les limites de son bourgeoisisme intégral.
Et d'une belle correspondance avec Louise Michel. Qui est très intéressant. Enfin, bon, il y a un très bon bouquin, c'est Correspondance de Manui, je crois. Il y a toutes les correspondances de Louise Michel, avec sa famille aussi, avec Clémenceau, avec plein de gens, et qui est vraiment. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un, une sacrée nana. Bon. Après, c'est à peu près tout, moi. Okay. Juste pour dire, peut-être que, en fait, j'ai fait référence à un marxiste hétérodoxe, Henri Lefebvre, qui n'a pas écrit la meilleure des choses, mais bon, qui distingue quand même, comme leçon par rapport à l'international, l'incapacité en tant que force politique structurée de pouvoir intervenir globalement sur le territoire. Et l'hommage qu'on doit rendre aux internationaux, qui ont quand même défendu des conceptions globalement, même s'ils n'étaient pas tous d'accord à tel moment, anti-autoritaires, et qui ont pris toute leur place, à la fois dans les commissions et sur les barricades. Donc voilà.
On avait une question subsidiaire, Raphaël, je ne sais pas si tu sais, que je t'avais posée, à laquelle tu ne pensais pas avoir beaucoup de réponses. Mais comme elle est née là, on se demandait quel est le rôle des femmes durant l'international. Micro.
Je vais déjà te répondre sur Elisabeth Mitrieff, parce que tu me titilles là-dessus depuis plusieurs jours. Alors, envoyée par Marx, effectivement...
Frédéric, donne le micro aux personnes, c'est mieux. Ouais.
Envoyée par Marx, effectivement, elle avait 20 ans hein, quand elle arrive à Paris. Hein, c'est quand même une... Excuse-moi.
Une jeune femme.
C'est une très jeune femme. Voilà. Elle s'enfuit après la Commune. Donc en octobre 1871, elle s'enfuit en Suisse. Elle est condamnée par contumace à être tuée. Ça, c'est en 72, hein, lors du procès. Mais elle avait fui, donc ils ne l'ont pas retrouvée. Après... Elle arrive à retourner en Russie. Elle se marie avec un déporté là-bas. On pourrait se marier, ça, j'en sais rien. Ça, c'est les renseignements du métron hein, que je vous donne là. Et on perd complètement sa trace. On ne sait pas si elle meurt entre 1910 et 1918. C'est quand même... on n'a rien dans le métron. On n'a rien sur elle. C'est comme... Alors, tu vois, tu dis qu'elle est retournée avec Marx et elle a continué à faire du marxisme.
Je ne dis pas ça, je te demandais si c'était ça.
Voilà. En tout cas, ce n'est pas ça, parce que sinon, on a d'autres femmes hein, qui ont réussi après à faire des carrières politiques hein, soutenues par Lénine. Je pense à quelques femmes comme ça. Non, elle aurait été soutenue, puisqu'elle était déjà soutenue par Marx. Si vraiment elle était retournée du côté de Marx, on aurait plus de renseignements sur elle. Voilà.
OK, pour Dmitrieff, mais les autres femmes?
Alors, les autres femmes, il y a plusieurs femmes qui
font partie. Victorine.
Voilà, il y a quand même plusieurs femmes qui font partie de l'AIT. Hein, alors, elles ne sont pas dans les comités, puisque de toute façon, les femmes n'y étaient pas du tout. Hein, mais elles participent. Ben, quand il y a les congrès, elles y participent, bien sûr. Mais au moment de la Commune, il y a quand même plusieurs femmes qui sont dans l'AIT et qui animent les clubs en tant que femmes de l'AIT. En plus d'être membre de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, qui était quand même la grosse, grosse organisation des femmes sur Paris.
Voilà, donc, vas-y.
J'ai le micro. Juste pour dire, on cite en note hein, quand même, nous on a fait une note qui nous semble importante sur André Léo, qui, je veux dire, joue un rôle important pendant la Commune, avec Louise Michel, et ensuite, pendant son exil en Suisse. Quoi.
Voilà. Y a-t-il des questions à Raphaël, voire à Yves? Vas-y, Yves, oui.
Par rapport aux femmes, parce que j'ai voulu voir un peu. Tu parlais du métron. Donc, pour préparer un peu tout ça, j'avais fait des recherches. Et en fait, le métron ne répertorie pas les femmes de l'AIT dans la commune de Paris. Quand tu fais une recherche, en fait, tu peux rechercher deuxième période, donc celle qui concerne la commune. Deuxième période, femmes anarchistes commune de Paris. Quand tu sélectionnes ça, tu tombes sur, de mémoire, 853 fiches. Mais si tu cherches, si tu ajoutes AIT, tu n'as plus rien. Donc, visiblement, les recherches ne sont pas encore terminées. Elles doivent être approfondies par rapport à ça, ce qui est un peu dommage. Mais bon, peut-être que, comme tu disais hier, dans 50 ans, pour les 200 ans, on aura le reste des infos.
Sachant que le métron n'est pas un ouvrage fermé et définitif, c'est que si parmi vous, vous avez des informations sur le devenir de Dimitrieff ou la place des femmes dans la commune, il n'y a aucun problème. Vous allez sur la fiche de la personne ou pas, il y a un marqué contact avec le métron et vous pouvez apporter vos informations, si possible, en donnant des éléments de preuve, c'est-à-dire des journaux, des tracts, des lettres ou des témoignages de proches, quoi.
Et sinon, je voulais juste ajouter par rapport, quand on parlait des finances des sections de l'international, que ce soit les sections en France ou les sections européennes, Belgique, Suisse, en fait, leurs finances avaient déjà été mises à mal par rapport aux grandes grèves qu'il y avait eu en 69 et 70 auparavant. On parlait des grèves de Rouen, il y a eu celle qu'il y a eu à Lyon, on parlait aussi des ovalistes, il y a eu les mineurs du Nord ou de Saint-Étienne. Dans toutes ces grandes grèves, l'international est intervenu avec des militants, mais aussi financièrement pour aider à soutenir les grévistes. Et du coup, les caisses ont été quand même bien aussi vidées à cause de ça, avant la commune.
Et juste un point, puisqu'on parle de l'international, il faut citer Flora Tristan, qui, dès 1840, l'Union ouvrière, elle l'envisage d'un point de vue international, avant Marx pratiquement et avant la constitution de l'AIT. C'est elle qui, dans son texte, a déjà une perspective qui sera celle qui va se concrétiser en 1864 après sa mort. Ça, c'est fondamental.
Oui, Flora Tristan est un personnage tout à fait intéressant qui a beaucoup travaillé avec les Lyonnais, avec beaucoup avec les Canus, et dont on a peut-être quelquefois oublié un petit peu l'histoire. Sachant qu'elle a eu elle-même une histoire un petit peu compliquée dans sa propre vie. Y a-t-il une ou deux questions autour de l'international, son rôle durant la Commune de Paris ? Nous n'avons plus de questions, apparemment. Alors, ce qu'on vous propose, donc on vous remercie. Merci. Vas-y, Raphaël.
Une autopub.
Autopub.
On fait une revue qui est indépendante de la CNT, qui s'appelle vraiment La littérature ouvrière, dans numéro 2. On a reproduit dans le numéro 2 une nouvelle de Tristan Rémy, écrite en 36-37 dans la revue de Poulaille, qui s'appelle Le Capitaine Roudard, qui est une nouvelle qui se passe pendant la commune, et qui est, c'est une nouvelle, et qui donne vraiment comment, au niveau du peuple, etc., qui casse un peu des choses, comment ça se passait, des gens qui dénonçaient, etc., etc., aux forces de police, des communards, et qui donne une image très concrète. Voilà, c'est tout.
On a bien vu comment Valès se craignait d'être dénoncé par ses voisins ce matin. Alors, autopub pour autopub sur Radio Libertaire. Nous ne désespérons pas, Raphaël, de faire d'ici quelques temps une émission régulière sur la littérature prolétarienne. Donc on a un projet comme ça qui, doucement, s'élabore.
On a un projet, mais il faut trouver quelqu'un à la technique.
Oui, mais ça va se trouver. Ça va se trouver, la technique. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, on va aussi bien le LAP que j'appelle à la tribune, aussi bien le camarade ou la camarade de la CNT. Ah, Monique me fait signe qu'elle veut une pause musicale. Donc, elle aura sa pause musicale. Voilà. Donc, les organisateurs vont vous dire un dernier mot. Et puis, on essaiera de se donner d'autres rendez-vous ultérieurement, ici ou ailleurs, parce que, comme vous le savez, la commune n'est pas morte.